nous sommes au complet. Nous allons voir comment c'est cette table ronde sur homosexualité imaginaire du puritanisme à l'acceptation. Je crois qu'il va y avoir beaucoup à dire. Alors, et nous avons comme panéliste pour avoir Estelle Faye, qui a écrit entre autres Un éclat de chiffre et Les seigneurs de Bohème tout récemment, qui sont dans chacun des personnages principaux qui sont tout à fait dans la thématique de cette table ronde. À côté d'elle, Manon Fargeton, qui elle aussi a des personnages dans entre autres L'héritage des rois passeurs et plus récemment dans Les illusions de Sable-Loire, qui se déroule d'ailleurs dans le même univers. Elle aussi a des personnages féminins qui rentrent tout à fait dans nos thématiques. À côté d'elle, Jo Walton, qui a des personnages dans sa trilogie du changement subtil, qui commence par Le ciel de Farthing, et puis ensuite dans son dernier roman qui vient d'être traduit en français, Mes vrais enfants, elle aussi a des personnages centraux qui sont dans nos thématiques. À côté d'elle, Thomas Andrew, qui est écrivain, je dirais, d'urban fantasy à l'origine, et qui a commencé par une série policière qui s'appelle Red Carter, et dont le spin-off de Glenn Lansbury. Glenn est tout à fait lui aussi un personnage qui rentre dans nos thématiques. Et donc, à côté de moi, Francis Berthelot, le papa de Horus, que l'on connaît pour sa série Le rêve du Démiurge, 9 romans au total, Le rêve du Démiurge, mais surtout ici pour un diptyque, le diptyque de Canaor, et on va revenir dessus. Francis Berthelot, vous avez fait œuvre de pionnier à l'époque. Alors, donc, ce que je voudrais ajouter, après ça, je passe la parole à nos panélistes, parce que ce sont eux qui sont intéressants à écouter. Je voudrais dire simplement que je suis très content d'animer cette table ronde autour de l'homosexualité imaginaire, parce que bon, il faut se souvenir quand même que le 17 mai, trois jours, c'était la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, et que pour célébrer cette journée mondiale de l'homophobie, il y a eu les déclins, il y a la situation en Tchétchénie, qu'il ne faut pas oublier, quand vous avez le chef de la police qui appelle les familles à tuer leurs enfants homosexuels, c'est joli, on voit que le monde progresse, et pas plus tard qu'hier, 27 hommes ont été arrêtés au Bangladesh. Donc on voit qu'effectivement, là, il n'y a pas d'imaginaire, il y a une triste réalité, et donc il est nécessaire qu'on parle de ces problèmes. Donc, peut-être on va commencer avec Francis Berthelot, parce que la sexualité, d'une manière générale, me semble-t-il, pendant longtemps, n'a pas eu droit d'existence dans l'imaginaire, que ce soit fantasy ou science-fiction, et puis soudainement, vous avez été un de pionnier avec le Canard, 1983. Comment est-ce que c'est devenu?
Non, en fait, là où j'ai fait l'œuvre de pionnier, c'est avant, c'est avec la Lune Noire d'Orient en 1980. Parce que la Lune Noire d'Orient était un space opéra agressivement homosexuel. C'était vraiment un manifeste. C'était un livre militant. Canaor, dont tu parles, n'a déjà plus ce côté militant, et je ne l'ai jamais plus eu. J'ai fait une fois dans mon premier roman l'homosexualité persécutée et se battant contre l'homophobie. Après, j'ai eu des personnages homos, des personnages hétéros dans tous mes romans, mais ça n'a jamais été le sujet.
Et alors, comment est-ce que ça a été reçu à l'époque? Parce que j'ai vu que Canaan, c'était quand même une aussi au fleuve noir. Qui n'était pas passion progressiste.
Oui, mais Canaan, c'était pas spécialement homo. Enfin, il y avait des homos parmi là. Il y subversif à l'époque parce que c'était une fantaisie et qu'on considérait dans les années 80 en France que la fantaisie c'était vraiment un sous-genre méprisable. C'était très très mal, très mal vu par les gens de la science-fiction. Donc c'est en ça que Canard a surpris. Pas tant son contenu, non. C'était la même
chose. Il a une fois paru, c'était sorti chez Canal Lévis.
Chez Canal Lévis, oui, tout à fait.
Il a aussi Canal Lévis.
Robert Louis a fait un bon forcing. Il a été vraiment bien. Et quand on sait que c'était lui également qui avait publié Crash de Balade, tu ne donnes rien. C'était tout à fait dans sa logique. Oui, vraiment.
Donc, là, on voit que ça se sent.
Juste citer quelque chose qu'a dit le Premier ministre canadien Trudeau en 2015 quand on lui a demandé pourquoi la moitié de son cabinet était constituée de femmes, de gens qui n'étaient pas de couleur blanche et de deux gays reconnus. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Ben, on est en 2015, en fait. »
I think it's the same. In 1981, it was a really brave thing to do, to write that book. And I really admire you for taking that chance. But now, it's because we live in a world that is full of diversity. And when I wrote Farthing, people said there were too many gay characters in it. I said, you should see my Life Journal friends list. My son said, well, you know, those are people you know. I said, in the book, the characters know each other. And anyway, here's me, a middle-aged straight woman. Of course I know lots of gay people, lots of lesbians, trans people, bisexuals. The world is full of people who are not just straight. And if you write only about heterosexual couples, you're leaving out a lot of stuff. You're leaving out a lot of people, a lot of possibilities, a lot of stories you could tell.
Alors, moi, je trouve qu'effectivement, avoir écrit votre roman dans les années 80, vraiment, c'était hyper courageux et je vous admire parce qu'il fallait le faire. Mais je pense que maintenant, écrire sur cette thématique-là, c'est juste refléter la réalité. Le monde est plein de diversité. Quand j'ai écrit Farming, on m'a dit « il y a trop de personnages gays dans ton livre ». Je dis là, bah, tu devrais voir ma liste d'amis. Hein. Enfin, franchement, moi, j'en connais plein. Voilà, je suis une femme d'un certain âge, j'ai plein d'amis gays, bisexuels, trans. Le monde, c'est pas que des hétéros. Et justement, si on écrit que des histoires d'hétéros, ben on passe à côté de plein d'histoires merveilleuses qu'on pourrait raconter et on oublie une grande partie de la population. Oui, bah, ça m'a fait un peu bizarre de voir l'énoncé de la table ronde, parce que effectivement quand on en parle avec ceux qui ont été les pionniers là-dedans, bah, on comprend le combat, et en même temps, évidemment qu'il y a encore un combat aujourd'hui là-dessus, c'est évident, c'est pas terminé, mais il y a eu aussi une évidence qui est que, bah, y a, effectivement, comme tu disais, il y a des lesbiens, il y a des gays, il y a des trans, et puis il y a des hétérosexuels, et puis pourquoi pas, en fait. Souvent, j'ai des personnages qui sont LGBT, mais c'est pas le sujet du roman. C'est juste, bah, question se pose plus de la même manière, je pense. Par contre, je trouve ça important que qu'on en mette dans les livres. Parce que pendant très longtemps, et alors particulièrement, là c'est des romans adultes, mais j'écris aussi beaucoup en jeunesse. Et en littérature jeunesse, souvent, quand il y a un personnage homosexuel, c'est le sujet du roman. Et je trouve ça important que, des fois, il y a des personnages qui sont des personnages secondaires, qui sont homosexuels, qui sont bi, qui sont, etc. Et c'est pas le sujet du roman, juste ils sont comme ça. Alors, je vous en fais déjà pourquoi citer, je crois, quelque chose qu'avait dit Touré dans une interview. C'est on écrit aussi les personnages qui nous manquent dans les livres qu'on lit. Et notamment, donc moi j'écris de la dark fantasy dans le dernier. Et la dark fantasy, c'est encore un genre qui quand même est très très sujet à pas mal d'archétypes assez, comment dire, conservateurs. Et c'est vrai que j'avais envie de secouer ces archétypes-là. Et de faire justement des héros de dark fantasy qui, comme disait Manon, comme disait Jonathan, correspondent plus finalement à tous les gens qu'on croise dans le monde réel. Sans en faire, sans en faire un cliché, sans être dans, en gros, le chevalier des fleurs efféminé, ou la grande guerrière au masque qui, de toute manière, va même pas vivre une seule histoire d'amour de tout le bouquin, quoi. Mais juste en faire des gens normaux, comme dans la vie. Et aussi, pour moi, cette table ronde, elle est un peu particulière, parce qu'il y a des auteurs qui font qu'on est devenu l'auteur qu'on est. Et notamment, si j'écris un éclat de gif qui est mon roman le plus personnel à ce jour, et si j'écris ce que j'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu Francis Berthelot. Et c'est vraiment un auteur qui m'a beaucoup construite. Je ne sais pas si je serai l'auteur, enfin si je sais que je ne serai pas l'auteur que je suis aujourd'hui sans ses livres. Donc c'est un peu... Voilà, je suis un peu émulatrice ici. Et c'est quelqu'un qui a ouvert beaucoup de portes, non seulement sur les personnages homosexuels dans l'imaginaire, mais aussi sur, en général, donner une beaucoup plus grande liberté aux auteurs de genre. Donc merci pour toute la liberté que vous avez donnée.
Merci à toi.
Oui, c'est que... On entend, pardon. Oui, non, c'est vraiment ce que je disais dans une interview que j'avais fait pour un blog. C'était ça, c'est que quand j'ai créé... avec un terme massacre principal dans ma fantasy, je voulais qu'on me dise maintenant qu'il y avait un personnage secondaire qui soit gay, parce que déjà avant je suis, j'avais envie d'avoir un personnage qui reflète un petit peu la société actuelle de 2015, 2016, 2017, et j'avais envie après de raconter son histoire, et donc d'en faire devenir un personnage principal de ma saga, et j'avais vraiment envie de raconter comment deux hommes pu se rencontrer, parce que je suis un grand fou de ma fantasy, mais au bout d'un moment je ne me reconnaissais plus dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui a entre 16 et 25 ans qui tombe amoureux du Batmoreuse et qui tombe amoureux du geek de base et qui est sur le loup-garou sur un vampire, je ne fais pas du tout de... Hein, d'accord, aucune allusion, hein, mais ça a vachement bien fonctionné, mais ce qui fait qu'au bout d'un moment un mec de 30 ans gay, ce genre de littérature, ça va 5 minutes, il y a la très bonne, et en force de lire la très mauvaise, on se dit, bon, stop, qu'est-ce que je pourrais proposer. Et c'est en lisant ce genre de littérature qu'on permet d'avoir
c'était comment est-ce qu'appelle Kael et Orient. C'est l'histoire d'un prince. Non, il y a le roi du royaume d'or et la reine du royaume de diamant. Et ils décident d'unir leur royaume en unissant leur fils et leur fille. Et il se trouve que le fils du roi d'or préfère ses copains à la pourtant ravissante princesse diaphane. Donc ça ne marche pas. Donc la reine de diamant, pour remédier à ça, libère un génie des eaux qu'elle possède, qui s'appelle Kael, et tient, et lui dit: je te rendrai ta liberté si tu arrives à convaincre le prince d'épouser ma fille. Et manque de peau, le prince et le génie des eaux ressortent une certaine attraction l'un pour l'autre, ce qui fait que, bien que le génie des eaux ait fait son travail de son mieux, le prince refuse d'aide. Et finalement, la situation est sauvée par son cousin qui est trop heureux de lui piquer sa place. Accepte d'épouser la princesse, donc le sommet a tout fini bien. Et le bon prince est balancé entre le ciel d'or, au fond des océans, qui va le libérer, évidemment, j'ai mis des eaux et avec ça. Bon, on ne dit pas de quel sexe elle génie des hommes, enfin, sans doute un peu quand même. Et je voudrais parler d'autre chose aussi. Alors là, c'est encore un autre genre. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est The Originals, qui est un spin-off de Vampire Diaries. Et dans la deuxième saison, il y a une histoire d'amour entre deux garçons qui sont l'un vampire et l'autre loup-garou. Et il y a une guerre féroce entre les vampires et les loup-garous. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce sont deux garçons n'est jamais mentionné. C'est uniquement le côté Roméo et Juliette qui intervient. Hein. Et bon, quand le loup-garou se fait tuer, sa horde accepte le vampire qui était son amant pour la cérémonie funéraire et c'est très bon.
Sometimes it'll be something that will just come to me. I'll be thinking about the character and their sexuality will just be part of who they are. And then other times with minor characters, I'll think, well, what's more interesting? Is it more interesting for them to be old or young, male or female, gay or straight? I'll ask myself those questions so that I avoid having characters that are just cliches. If I've got a person working behind the bar, it's not going to be my main character, but my main character goes into a bar and there's somebody behind the bar, I will think, what color is the person behind the bar? What is their sexuality? What is their thing? And the answer is, what's interesting? Also, a little bit, yeah, political representation. Let's have people visible who are good people who just happen to be queer of whatever kind. It's, you know, it doesn't have to be a big deal. It doesn't have to be tragic. Because for a long time after we were allowed to have non-straight characters, they had to die. And they're the only story you can so it was always part of them. But actually, now I think of it though, the detective character in my small change books, I'd written the first chapter, and I was writing the second chapter, which was him, and he was in a car driving along to go and sing the crime with his sergeant, and he was a detective. And I suddenly thought, people will read this situation as very slashy, very the two men in the car. And I thought, wait, it's 2004, they could be gay. And then I thought, no, no, my detective could be gay, he could have a partner at home, he could have unresolved sexual tension with the sergeant. That's more interesting. And I'm going to do that. So I did that. But that was so early in thinking about the character that it just seems like, yeah, I can't imagine him straight.
Ça se produise, soit le personnage me vient comme ça directement, je sais, ça fait partie de sa personnalité, il est homosexuel, soit c'est un personnage, pas un personnage principal, un personnage secondaire, et là je cherche ce qui pourrait être le plus intéressant, bah, est-ce que c'est mieux qu'il soit vieux, jeune, que ce soit un homme, une femme, qu'il soit gay ou qu'il soit hétéro, et dans le but tout ça d'éviter les clichés. Par exemple, j'ai réfléchi à si mon personnage principal se rend dans un bar, derrière le bar il y a une femme, je lui demandais quelle est sa couleur de peau, quelle est sa sexualité, qu'est-ce qui pourrait la rendre intéressante. Et il y a aussi un aspect politique, une espèce de, pour représenter aussi ces populations-là, des gens qui sont des gens bien, et en fait, ben, on s'en fout s'ils sont gays ou pas, enfin, c'est juste partie d'eux, c'est pas si important que ça. Et pendant longtemps, les histoires sur les personnages gays, c'était soit c'était l'histoire de leur coming out, soit c'était une mort tragique. Il n'y avait pas le choix, on pouvait faire que ces deux versions-là. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de décrire des personnages comme justement quelqu'un qui travaille derrière un bar, une femme d'un certain âge qui est mariée à une autre femme qui est heureuse et à qui le héros va raconter sa vie. Et bah, après ça, elle rentre chez elle, elle retrouve sa femme et tout se passe bien. Alors je me dis que c'est encore plus intéressant si la barmaid est noire ou asiatique. Moi, c'est des personnages que j'aime voir. Justement, cette barmaid qui va retourner chez elle le soir retrouver sa femme, ça fait vraiment plaisir et je le fais pour ça. Mais s'il s'agit d'un personnage principal, ça se passe différemment. En général, ça fait partie de leur personnalité et je les ai toujours vus comme gay, par exemple. Si on parle de ma trilogie des subtils changements, l'inspecteur, qui est le personnage principal, donc il y a un premier chapitre et le deuxième chapitre, ça, c'est lui qui se rend sur une scène de crime avec son sergent. Et je me suis dit, deux hommes dans une voiture, et s'ils étaient gays. Et après, je me suis dit, je vais faire mieux. Il y en a un qui va être gay, et il aura déjà un petit ami à la maison, mais il y aura une tension sexuelle avec son sergent qui est avec lui en voiture. Et du coup, donc sergent, c'était le deuxième chapitre, donc j'ai en gros tout de suite su, pour moi, il a toujours été gay, et voilà, ça faisait partie de sa personnalité.
Alors pour moi, il y a... Alors je suis... super d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas les répéter. Mais il y a effectivement, il y avait une envie, quand j'ai commencé l'héritage des rois passeurs, de sortir du cliché du héros habituel de fantasy, homme, mâle, blanc, enfin mâle, blanc, homme, c'est un pareil, mais, donc on recommence, homme, blanc, hétérosexuel, actif avec son épée, tout ça. J'avais envie de sortir un peu de ça, donc j'ai fait autre chose. Et faire autre chose, bah, c'est passer par avoir une héroïne qui aime les filles. Mais elle m'est aussi apparue comme ça dès le départ. Pour moi, c'était logique. J'avais besoin qu'elle ait fui son château à 17 ans parce que son père voulait la marier. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bah oui, il voulait la marier avec un homme, elle aime les filles, elle se barre, elle veut pas, quoi. Donc ça m'est apparu comme ça très très vite par l'histoire, et parce que j'avais envie de faire ça aussi, et de donner une voix à d'autres types de personnages. Voilà. Qui n'est pas du tout une guerrière au départ, d'ailleurs. Effectivement, dans Les Illusions de Sarre-Loire, Fel, on a le personnage de Fel qui... Mais Fel, c'est compliqué parce que Fel, c'est une opportuniste. Elle aime tout le monde du moment que les gens vont lui apporter quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Au départ, c'est une égocentrique totale qui s'attire la protection des gens qui peuvent la protéger. Et s'il se trouve que c'est une princesse lesbienne, hop, elle devient lesbienne, il n'y a pas de souci. S'il se trouve que c'est un homme, bon, elle va partir avec le mec. Voilà, elle ne se pose pas vraiment la question de sa sexualité au-delà de ça. Mais en fait, c'est rafraîchissant aussi, ce côté. Elle ne se pose pas la question. Elle a envie d'aller avec les gens, elle va avec les gens, point. Et c'est une part ça vient d'une part de son égocentrisme, mais au fur et à mesure, effectivement, ça vient aussi de qui elle tombe amoureuse, quoi, tout simplement. Et si elle tombe amoureuse d'une femme, elle va avec une femme, et si elle tombe amoureuse d'un homme, elle va avec un homme, tout simplement.
Moi, je vais, pareil, à peu près que tout le monde à sa table, c'est les personnages viennent comme ils doivent être. Tu es dans un éclat de givre, forcément, et il était bille dès le départ. Il craque aussi tout le temps pour la mauvaise personne, et comme c'est un père d'artichaut, en plus, il craque assez souvent. Et ça faisait partie de son identité de base. Et Maeve, dans Les Seigneurs de Bohen, qui est la sorcière qui cristallise du sel au bout de ses doigts, elle, en gros, je l'ai vue, j'étais au bord de l'océan, et j'ai vu avancer cette fille sur la plage, avec ses cheveux un peu verdis par les décoctions d'algues, elle voit qu'il ne sert à rien, avec sa robe un peu sauvage, elle rentre sur la plage, elle doit rentrer au port où elle habite. Et elle rentre vers le port, et là, elle voit sur le port la femme avec qui elle est en couple, qui est l'antenne, qui est super belle, qui est la sorcière hyper glamour dans sa grande robe rouge et tout. Et c'est avec elle qu'elle est au début du livre. Et voilà, c'est comme ça que les personnages arrivent. Après, selon le monde dans lequel ils sont, par contre, là, je vais commencer à me poser des questions et dire, vu le monde autour d'eux, comment le monde va réagir. Et par exemple, donc un éclat de givre, c'est du post-apo, ça se passe dans deux siècles. Le fait que Chet soit bisexuel, c'est pas un problème. Et c'est même pas une question dans cette société-là. Ce qui va par contre poser question, c'est le fait que Chet appartienne à aucune des communautés constituées dans cette ville-là. Mais les enjeux vont être différents. Alors que Bohème, c'est un monde médiéval renaissance qui est beaucoup inspiré de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, donc à cette période-là de l'histoire. Et forcément, le fait que Maëlle soit lesbienne, ça ne va pas du tout être vécu pareil. D'où beaucoup de recherches historiques aussi pour être au plus près justement de la réalité historique possible. Et pour finir, j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Joe Walton, qui m'a beaucoup parlé dans les retours que j'ai eus, donc notamment sur Bohème. C'est des retours de lecteurs qui trouvent par moments, en fait, que notamment, Maeve, elle ne fait pas que souffrir dans ses relations avec d'autres femmes. Elle ne fait pas que en baver. Ils ont aussi droit à des moments de bonheur. Ils ont droit à des moments où elles sont bien ensemble, avec celle avec qui elle est à ce moment-là. Et ça, j'ai des lecteurs qui m'ont reproché, qui, quelque part, voulaient qu'il n'y ait absolument que de la souffrance. Comme si elle n'avait pas droit à avoir des moments de vie normale aussi, quoi. Alors qu'en plus, franchement, ils sont pas. J'ai quand même tendance à être assez sombre dans Les Seigneurs de Bohème, donc les moments de bonheur, ils sont pas si courants que ça, quoi. Et c'est vrai que certains lecteurs veulent voir absolument les personnages homosexuels sous ce prisme-là de souffrir et mourir, quoi. Non.
Je rebondis là-dessus parce que c'est marrant. J'ai un peu de mal avec les happy ends de manière générale, mais. C'est toujours. C'est un peu du spoiler, mais vaguement, ça ne spoil pas trop. De manière générale. Non, bouchez-vous les oreilles, ceux qui ne veulent pas. Mais j'ai tendance à donner une fin sympa aux personnages, justement, homosexuels ou bi. J'ai envie qu'ils soient heureux à la fin. J'ai tendance à faire ça, mais je m'en rends compte maintenant que tu le dis, en fait. C'était complètement inconscient.
J'ai pas dit forcément, moi, que je donnais une fin sympa à Maeve. Hein. C'est. Par contre, ce qui est marrant sur d'autres lecteurs, sur toujours Maeve, la réflexion que j'ai eue, c'est pas tant le fait qu'elle soit lesbienne, c'est le fait que par contre elle vit ses relations amoureuses comme un mec en fait. Enfin, c'est-à-dire comme on a l'habitude qu'un mec les vive. Il y a une critique donc, qui a mis que Maeve était trou ou womanizer. Parce qu'en gros, elle les enchaîne quand même si elle est sincère parfois. Et elle va pas forcément choisir son couple par rapport à ses autres centres d'intérêt. Et ça, pareil, j'ai aussi des lecteurs qui, quand même, m'ont dit « Ouais, non, mais là, tu vas un peu loin et tout, parce qu'elle est amoureuse, elle devrait rester avec la fille qu'elle aime, mais c'est pas forcément elle, quoi. »
Alors, avant de poursuivre, moi, j'ai quand même une question pour toi, Walton, suite à ce qui est dit, entre autres, vous parlez sur la vie, vous êtes sur la chemin ensemble, est-ce que c'est aussi personnage principal, quand elle est avec elle,
bisexual, but in the one world she never found out the reading that she was attracted to women. It was socially not an acceptable thing at the time, and she never really had any female partners in the other world, but in the other world she fell in love with women and they stayed together and they were happy. I did not want people to read it and think that I meant by this that women can only be happy with women and unhappy with men. So in the world where she marries and has a really terrible marriage, she also has a very happy, satisfying love affair with a man later on, which I quite deliberately did to try to defuse the idea that I was doing this. But I was doing a happy life in a bad world and an unhappy life in a good world as a deliberate contrast in that novel. And it just turned out, not quite randomly, but almost randomly, that the happy life was the lesbian life. But neither one of them has a happy ending, because the death of her lesbian partner is very, very sad. And when you write about people's... When you write about people's whole lives, you also write a lot about death, a lot more than you would want. Everybody dies. And sadly, spoiler, in real life. Yeah. No, I wasn't doing that on purpose to do that. But I was just contrasting a good relationship and a bad relationship in the two different worlds, and it just happened to work out that way. And I really did want to do it's not destiny, it's my sort of anti-providence book. God does not have a plan for your life. Your life could go really, really different ways.
Alors effectivement, moi quand j'ai écrit ce livre, ce que je voulais faire, c'était raconter deux vies différentes, deux vies parallèles, et montrer que la sexualité ne faisait pas partie d'un destin prédéterminé. Effectivement, le personnage principal est bisexuel, mais il y a un monde dans lequel elle ne s'en rend même pas compte, et d'ailleurs dans cette société-là, c'est pas vraiment bien vu, mais dans l'autre monde, elle vit avec une femme et elle est extrêmement heureuse. Alors moi je voulais pas qu'on se dise que, comme par hasard, que les femmes ne pouvaient être heureuses qu'avec des femmes, puisque l'histoire avec la femme se passe très bien et l'histoire avec l'homme se passe très mal. Et du coup, dans le monde où elle épouse un homme, elle a aussi une liaison très satisfaisante avec un homme, pour bien montrer qu'on peut aussi être heureuse avec un homme, et pour voilà, un peu apaiser les tensions que j'aurais pu créer. Mais techniquement, il y a quand même cet aspect où il y a une bonne relation dans un monde affreux et une mauvaise relation dans un monde plutôt heureux. C'était pour une question de contraste, en fait, que j'ai fait ça. Alors, c'est pas tout à fait au hasard, mais presque, que c'est finalement la relation avec une femme qui se passe bien. Mais techniquement, il n'y a pas de happy end, puisque quand la femme meurt, c'est très triste. Alors, on me reproche de faire un spoiler, mais non, je vous l'annonce, on meurt tous à la fin de notre vie. C'est pas un spoiler, comme je raconte toute la vie de mes personnages, ben ils meurent à la fin. Mais c'était vraiment pas mon objectif premier. Ce que je voulais, c'était montrer un contraste entre une bonne relation et une mauvaise relation, et ça s'est trouvé, enfin, ça s'est fait comme ça, et c'est tout. Mais je voulais surtout faire comprendre aux gens que ce n'était pas une destinée, que Dieu n'a pas un plan pour vous, et que votre vie peut se passer de façon très différente selon vos choix.
And I think also the message that if you fall in love with a good person who is good for you, you can be happy. And if you fall in love with a bad person who is bad for you, like your character, you're not going to be happy. It's not the gender of the character, it's their character.
Et donc le message techniquement, c'était juste que si on tombe amoureux d'une personne qui est bien pour vous, vous allez être heureux. Si elle n'est pas bien pour vous, vous serez malheureux. C'est pas une question que ce soit un homme ou une femme, en fait.
Oui, non, je voulais juste dire que j'ai aussi des happy ends hétérosexuels et j'ai aussi des non-happy ends homosexuels dans mes livres. Hein,
et aussi, ça me faisait penser à quelque chose que disait Francis au tout début. Ce qu'il y a, c'est par ailleurs, quelles que soient les histoires d'amour des personnages, quelque chose qui que j'aime voir en littérature ou au ciné et qui me tient à cœur, c'est que on peut avoir un personnage qui soit homosexuel sans que ce soit absolument le sujet principal du livre. Il peut juste être un personnage qui est homosexuel et qui, par ailleurs, a tel et tel but dans la vie. Et par exemple, donc Maeve veut libérer les océans et c'est ça son histoire. Et par ailleurs, elle craque pour les gens. Les filles.
Raven veut prendre son trône. Elle aime les filles. Bon, ok. Elle les a pas lus.
Ça va. Est-ce que vous constatez qu'il est plus facile pour Jean-Louis Hector de parler de sexualité féminine que de sexualité masculine? Au niveau de la réception des réactions de Hector, est-ce qu'il y avait plus grande tolérance pour l'un ou pour l'autre?
Ça va aller assez vite, donc après je serai pas. Pour moi, dans mon expérience d'auteur, bon, je ne fais pas du tout une généralité, j'ai vu que ce n'était pas tant le fait que ce soit de l'homosexualité masculine ou féminine, c'est selon le genre dans lequel j'étais. Un éclat de livre, de toute manière, c'est du déjanté, c'est du bizarre, c'est du freak show. Là, le fait que Chet soit bi, tout le monde a adoré. Les Seigneurs de Bohème, c'est de la dark fantasy épique. Donc c'est un genre qui est quand même encore aujourd'hui très dominé par les mecs, on va dire, à l'ancienne. Donc qui, pour certains, ont beaucoup de mal à sortir des cases. Et parfois même la réaction d'un même lecteur aux deux livres n'a pas été la même sur ce sujet-là, selon que c'est donc du freak show complètement bizarre, ou selon que c'est de la dark fantasy, et avec beaucoup de batailles, avec voilà, enfin, beaucoup de gros combats et beaucoup de, voilà, de grandes épées et de violence. C'est comme si dans un genre, tout à coup, c'était moins accepté que dans un autre. Et franchement, c'est une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a surpris d'ailleurs au début. Maintenant, c'est quand même des réactions hyper minoritaires parce que j'ai l'impression, après vous me direz, que le public de l'imaginaire, les lecteurs de l'imaginaire en France, là-dessus, ils sont, enfin, je veux dire, de toute manière, hyper ouverts à tout ce qu'on peut mettre dans nos livres et c'est super cool.
Oui, mais je ne me suis pas du tout posé la question de la réception des lecteurs au moment où j'ai commencé à écrire des personnages lesbiens ou homosexuels. Et en fait, j'ai été assez... Je trouvais ça assez génial parce que j'ai eu plein de... Alors des filles en particulier, qui m'ont fait des retours en disant « Tiens, c'est la première fois que je me reconnais dans un roman. » et ça, c'est alors aussi en jeunesse, mais ça l'a fait aussi pour l'héritage de Repasseur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne m'attendais à rien, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Pour moi, c'était normal de mettre des personnages homosexuels dans les romans ou bi ou autre. Et je ne pensais pas que c'était encore autant... aussi peu courant, en fait, parce que mine de rien, c'est quand même pas si courant. Là, on en parle parce qu'on a tous écrit des personnages LGBT, mais c'est pas si courant, finalement. Et voilà, ces retours, ça a été... Je me suis dit, ok, bon, c'est cool. J'ai fait ma part et je vais continuer, quoi.
A month from a young asexual who's read this book and recognized themselves in it, even though she's a warrior in a kind of Celtic fantasy land, but they've recognized their sexuality that they don't see represented very often. I actually keep a list of links to asexuality stuff to send to people because I get this kind of fan mail from very unrepresented sector of the community. And I have gay characters, and I think one lesbian character in those books as well. And then I have a major character who's bisexual in my next book. But when I wrote Farthing, the one with the gay detective, there's a lot of gay people in that book, and much gay reaction that that it was a thing. And in the years since 2006, when it was published, I've just got less and less of that in reaction to that book. And when it came out in France last year, nobody said there's too many gay characters. So I think it's just something where it's improved in the last decade. And this is a big planet with a lot of people. And we were talking about places where it's really terrible now. Chechnya and it's appalling, but we have had some real victories. And last year, the year before last, My Real Children was nominated for the Stonewall Award, which is a mainstream US award for books with gay and lesbian content. And I had to give a speech at the banquet. And while I was on the way to San Francisco to give this speech and accept the... They call the people who are on the list honors. So to accept the Stonewall Honor Award, while I was on the train to do it, the U.S. passed marriage equality. And so when I got to San Francisco, marriage equality had been passed, which was wonderful because it was also my wedding anniversary. And I was saying, I feel like my marriage has been affirmed by the fact that now everybody can get married. And it's no longer a privilege that not all my friends share. And we have seen huge progress on this stuff in some places.
Alors, dans tous mes romans, il y a des personnages qui ne sont pas hétéros. Alors, ce n'est pas forcément des personnages principaux, mais vraiment, j'en ai dans tous mes romans. Et dans un de mes premiers romans, il y a un personnage asexuel. Alors, je l'ai écrit en 2000, et j'ai reçu beaucoup de courriers, et je reçois encore des emails, au moins une fois par mois, de jeunes femmes asexuelles qui m'écrivent qu'elles se sont enfin reconnues dans un personnage de roman. En général, j'ai mis de côté tous les liens pour des sites qui parlent d'asexualité pour pouvoir leur envoyer ça en réponse, parce que c'est vraiment encore un genre qui n'est pas du tout représenté. Et donc, j'ai des personnages qui sont gays, lesbiennes. J'ai un roman où le personnage principal est bisexuel. Et dans Farthing, donc la trilogie du subtil changement, il y a un inspecteur qui est gay. Et dans ce roman, j'ai eu beaucoup de réactions comme quoi il y avait trop de personnages gays dans ce roman. Et j'étais là, mais et pas forcément de la part de gens dont on s'y attendrait, en fait. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce qui est assez de personnages gays? Qu'est-ce qui est trop? Est-ce que j'ai le droit d'en mettre trois? Est-ce que j'ai le droit d'en mettre plus? Enfin, c'est un peu compliqué à déterminer. Et ça nous a vraiment paru bizarre à mon éditeur et à moi, parce que bah, nous, on vit dans un monde où il y a une grande diversité. Et d'ailleurs, dans cette trilogie, le deuxième roman a été nominé pour les Lander Awards, donc qui est spécialisé justement dans les, pour les personnages gays. Et le premier, on ne l'avait même pas proposé parce qu'on n'y avait pas pensé. On ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages gays dans le roman, donc on ne l'avait pas proposé pour ce prix-là. Et donc ce roman-là est paru en 2006. Et depuis, on a de moins en moins de remarques quand même. Maintenant qu'il est sorti en France, on n'a eu aucune remarque sur, là-dessus. On peut dire qu'on a évolué en 10 ans. Mais je pense que le monde est gigantesque et on a parlé tout à l'heure des endroits où ça se passait très très mal, comme en Tchétchénie. C'est vraiment effrayant ce qui s'y passe. Mais on a malgré tout gagné quelques petites victoires. Il y a un an, j'ai gagné le prix Stonewall, qui est également, c'est pour la littérature générale, mais également avec des personnages gays et lesbiens. Et je suis allée là-bas pour faire un discours, et quand j'étais dans l'avion pour San Francisco, il y a eu, la loi est passée pour le mariage gay. Et moi, je me suis sentie encore plus, ça a renforcé encore mon mariage, je me suis dit, c'était mon anniversaire de mariage également, et je me suis dit, maintenant que tout le monde peut se marier, mon mariage, il vaut vraiment encore plus, finalement. Donc voilà, ça évolue.
Je pense qu'en fait, quand j'entends ce que disent les communes sur leurs ouvrages, je pense qu'en fait, c'est vraiment typique du lectorat, soit leur fantaisie, soit faire vraie fantasy. Moi, quand j'écris de la vraie fantasy, 95% des couples LGBT sont gays. Il y a très peu de couples lesbiens. Donc c'est vraiment encore assez à la marge. Et je pense que justement, si vos héroïnes voilà, sont bi, sont lesbiennes, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand on est de la fantasy classique, en fait, on s'en fout. Parce que tout simplement, voilà, c'est une guerrière, c'est un truc sincère, ça va être voilà, une personne végétarienne, égocentrique. Mais parce que ça fait partie de la fantasy qu'à la rigueur, on accepte tout en fantasy. Sauf qu'en urban, bizarrement, les couples lesbiens, ben, ça ne fait pas fantasmer. C'est que c'est un peu ce qu'on me dit quand les gens viennent me voir. J'ai beaucoup de lectorat féminin qui viennent me voir parce qu'elles adorent quand deux mecs font des choses ensemble. Comme les hommes qui aiment quand ce soit deux femmes qui font les choses ensemble. Mais elles adorent ça. Les couples lesbiens, en fait, ça ne fonctionne pas si bien que ça parce que c'est encore à la marge et c'est encore, je ne sais pas, c'est encore peut-être un tabou ou quelque chose dans ce genre-là. Que de, voilà, que pour Glenn et Kylian, non seulement en plus, ce sont des serial planners tous les deux, ils sont des play jobs, etc., parce qu'ils aiment bien, s'affiner. Ça renforce encore un peu plus le côté couple gay qu'on a l'habitude de voir sans rentrer dans les stéréotypes. C'est ça qui est, que les lecteurs aiment bien dans la saga, c'est justement d'avoir un couple, on va dire, normal, et encore je mets 18 guillemets pour comme ils disent, alors que moi, ils sont normaux, hein, c'est-à-dire que c'est comme un couple hétérosexuel, mais que, voilà, ils s'envoient des balles, ça s'amuse, ils sont très sympathiques entre les deux, et ils ont l'impression de voir un couple hétéro. Alors si j'ai fait passer ce message en disant qu'un couple gay, c'est comme un couple hétéro, yes, j'ai enfin fait mon pari, en disant que, bah ouais, on est normal, c'est con, hein, c'est ballot. Donc ouais, c'est plutôt ce côté-là où les gens me disent, bah merci, et surtout des couples hétéro-gays, notamment deux de mes élèves qui sont ensemble dans ma classe, hein, qui ont lu mon bouquin, qui m'ont dit, bah merci d'avoir en train de leur fantasy où je peux me reconnaître. Et donc, ne serait-ce que déjà ça, en tant que professeur, ça fait plaisir, en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, ça fait encore plus du bien.
Moi, cette discussion me fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnages de lesbiennes dans mes premiers romans, et que dans les derniers, je crois qu'il y en a très peu. Je suis en train de me demander même s'il y en a dans mon cycle Le règne du déluge. J'ai l'impression que non. Il y a dans un des romans, Le jeu du cormoran, il y a un personnage, adolescente qui ne sait pas très bien de quel sexe elle est, et finalement elle finit par opter pour la féminité. Enfin, c'est son corps qui opte pour elle, parce qu'elle a ses règles, mais elle est avec un mec, donc ça reste dans la logique hétéro. Et j'ai des personnages de femmes qui sont amoureuses d'hommes. J'ai des personnages homo, gays, des hommes. J'ai l'impression que j'ai plus tellement de femmes lesbiennes. Et c'est vrai que je me suis souvent dit aussi de quel droit parlerait dans leur nom. Parce que je ne suis pas une femme et je ne désire pas les femmes. Donc je ne me sens pas très légitime, oui, voilà, pour en parler, et a priori c'est pas dans mes fantasmes, donc c'est pas ce qui me vient naturellement. Je vais être plutôt à répéter ce dont on a parlé plusieurs fois, le couple du gentil garçon et du bad boy. Ça, il revient très fréquemment chez moi.
C'est marrant parce que pour le coup, moi je suis hétérosexuel. Donc j'ai jamais couché avec une fille, j'ai toujours été attirée par les garçons, mais ça je trouve pas que ce soit une barrière en fait pour écrire des histoires homosexuelles, que ce soit d'ailleurs entre garçons, alors là une fois, ou entre filles, parce que pour moi c'est juste de l'amour en fait, c'est juste du désir et de l'amour, et ça c'est deux choses que j'ai expérimentées et que j'expérimente. Donc je vois pas où est la barrière en fait. Pour moi, il n'y en a pas.
Moi, je dis pas qu'il y en a une. je dis pas qu'il y en a une, mais je m'interroge, je me demande à quoi c'est dû. Moi, ça se fait que ça ait pris cette tournure chez moi.
If you leave it out, there's a hole, there's a space, there's no representation.
Si on n'en parle pas, on ne représente pas ces gens-là non plus. Donc, c'est pas parce qu'on ne l'est pas.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas tellement de modèles autour de moi qui me demandent tellement de modèles. Comment ? Non, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Et j'avais deux amis lesbiennes.
L'autre bout du monde.
Ah oui, ça fait le voyage. Donc, effectivement, je suis moins constamment renvoyé que je ne l'étais à l'époque. À ce regard sur la société, sur la vie, sur le respect, par rapport à moi.
J'aurais une question à vous poser, parce que demain, on va commencer à l'évoquer. C'est l'essor qu'il y a depuis quelques années de ce qu'on appelle la belle nouvelle. Ça a débuté bien entendu aux États-Unis, mais ça commence à se développer en France. On a quelques auteurs, etc. Et j'ai appris avec surprise que cette littérature donc était lue principalement par des femmes. Donc j'avoue que je me pose là aussi un peu la question pour le peuple français.
En fait, c'est un truc que je ne m'explique pas. Mais vraiment, c'est-à-dire que, effectivement, alors, je ne me considère pas comme auteur de romans MM, quoique si, avec la saga de Gaston Borisy, excusez-moi, avec des vampires, chez Milady, on va avoir à jouer Gabriel avec les Livre des Verdins, tout ça, avec des loups-garous, des métamorphes. Mais c'est vrai que c'est un peu grâce ou à cause de, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez, ce sont les auteurs américaines. Féminin, je parle vraiment pas, c'est en fait des auteurs féminins qui écrivent ça. Des fois, c'est très mal écrit parce que quand j'ai lu, juste comme ça, j'ai lu une scène avec deux hommes sur une botte de foin. Et là, je me suis dit, donc déjà, il faut que le premier mec, il faut qu'on galère 8 codes pour faire la scène parce que c'est pas possible. Et deux, ça gratte. Et donc, je me suis dit, donc là, déjà, il y a un petit problème. Même s'ils sont sorciers ou autre chose, hein. Je suis au bout d'un moment, même moi ça me pique. Le gazon ça me pique, au bout d'un moment le foin ça va pourrir. Donc c'est vrai, alors, des fois voilà, ils ont des images, etc. Un peu comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est peut-être leur fantasme ou autre chose. Pourquoi pas, mais c'est vrai que après en France on est très peu à exister. Il y a aussi Sébastien Bernadotte qui a écrit aussi un roman fantasy roman MM. C'est justement, on est très peu à exister, et le lectorat que l'on a, c'est quasiment à 95% des filles, et on ne s'arrive pas à s'expliquer pourquoi ce sont des femmes, des jeunes filles, à partir de 15-16 ans, qui lisent ça. C'est incompréhensible, donc si vous avez la réponse, vous pouvez me trouver à la bulle au livre, et vous me le dites, et je serai super content.
I have a theory about that, which is that young women want to read imaginations of equality, and they can't imagine an equal relationship with men, where they're attracted to men. So by reading a male-male romance, where the men are equal in power, in a way that men and women are not, they can get the power equality situation. And I think that is the attraction of that to young women. That was the attraction of that to me when I was that age.
Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que justement, les jeunes femmes recherchent des relations d'égalité, et elles sont attirées par des hommes, et du coup, de voir deux hommes ensemble, elles trouvent qu'il y a une égalité, une puissance égale entre les deux, et c'est ça qui les fait rêver, en fait.
Je pense aussi que c'est lié aussi aux séries télé. Par exemple, quand je vois Supernatural, parce qu'il y en a qui sont fans, mais quand on voit Dean et Castiel, il y a une tension sexuelle entre les deux, on a juste envie que pendant un épisode, ils couchent ensemble. Et je pense que c'est beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui regardent ça, et elles ont envie que ça se passe comme ça. Et donc, ce qui fait que, voilà, comme tu disais aussi avec The Original, c'est pareil, c'est qu'il y a une tension dans Mortal Instrument, la saga qui est sur...
fanfiction qu'il y a sur dîner Castiel, voire dîner Sam, homosexualité plus inceste. Sur internet, il y en a des tas.
Moi, je suis d'accord avec Manon. Moi, je sens plutôt Sam et Dean aussi. Les deux frères. Ah oui, absolument. Je veux dire, j'ai jamais pensé à donner un rapport érotique entre Dean et Castiel. Alors que je trouve Castiel très, très, très attirant. Je sens la relation entre les deux frères très amoureuse.
C'est marrant parce que personne n'a peur de Crowley, c'est dingue.
Je suis une grosse fan de la fantasy Clichard, où il y a du sang, tout ça. Et c'est vrai que c'est un genre dans lequel, en fait, pendant très longtemps, tout ce qu'on trouvait comme personnage désirable, c'était des filles, en général, en plus, qui correspondaient à un certain stéréotype, genre les filles à superbe poitrine, donc à taille hyper mince, évidemment, aussi, ça va avec. Voilà. Et finalement, on ne trouvait pas de beaux mecs décrits comme désirables. Et quand même, voilà, enfin, en tant que... Quand on est une lectrice fille qui aime bien les beaux mecs, on ne trouvait pas, quoi. Et quelque part, c'est vrai que c'est aussi les auteurs qui ont amené des héros homosexuels, qui nous ont amené des beaux mecs vraiment décrits comme des...